Brésil, l'abolition impériale et métissée, 1888. Venons-en au cas du Brésil. Bien que moins étudié que les abolitions britanniques, françaises et états-uniennes, l'abolition de l'esclavage mise en place au Brésil en 1888 est également riche en enseignements. Contrairement au sud des États-Unis, où le nombre d'esclaves avait bondi de 1 million à 4 millions entre 1800 et 1860, le Brésil ne connut pas de progression spectaculaire de sa population servile au XIXe siècle. Le pays comptait déjà autour de 1,5 million d'esclaves en 1800 et ce nombre ne progressa guère jusqu'à l'abolition de 1888. En dépit des remontrances britanniques de plus en plus pressantes, les négriers brésiliens continuèrent certes de pratiquer la traite pendant une bonne partie du XIXe siècle, au moins jusqu'en 1850-1860, mais à une échelle de plus en plus réduite. Surtout, la traite ne permettait pas une progression aussi rapide que l'accroissement naturel pratiqué aux États-Unis. Les processus de métissage et d'émancipation graduelle étaient en outre beaucoup plus répandus au Brésil, ce qui contribua à limiter l'accroissement de la population esclave. Lors du recensement mené au Brésil en 2010, 48% de la population s'est déclarée comme blanche, 43% comme métisse, 8% comme noire et 1% comme asiatique ou indigène. En réalité, au-delà de la façon dont les personnes choisissent de se décrire elles-mêmes, les recherches disponibles sur la question suggèrent que ce sont plus de 90% des Brésiliens de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle qui ont des origines métissées, européennes et africaines et ou amérindiennes, y compris au sein des personnes se décrivant comme blanches. Tout indique que le métissage était déjà extrêmement avancé à la fin du XIXe siècle, alors qu'il reste extrêmement marginal jusqu'à nos jours aux États-Unis. Le métissage n'empêche cependant pas la distance sociale, la discrimination et les inégalités qui demeurent encore aujourd'hui exceptionnellement fortes au Brésil. La relative stabilité du nombre d'esclaves entre 1750 et 1880, autour de 1,5 million, dans un contexte de très forte progression de la population brésilienne, se traduisit par une baisse de la proportion d'esclaves. Environ 50% en 1750 et entre 15 et 20% en 1880, ce qui reste considérable. Il faut en outre souligner que cette proportion restait supérieure à 30% dans certaines régions. Historiquement, les premières concentrations d'esclaves s'étaient situées dans les plantations sucrières du Nord-Est, en particulier autour de Bahia. Dans le courant du XVIIIe siècle, une partie des esclaves avait été déplacée plus au sud, en particulier vers le Minas Gerais, à la suite du développement des mines d'or et de diamants, vite taries, puis surtout avec le développement du café dans les régions de Rio et de São Paulo au XIXe siècle. En 1850, la ville de Rio comptait 250 000 habitants, dont 110 000 esclaves, 44%, soit davantage qu'à Salvador de Bahia, 33%. En 1807-1808, quand la cour de Lisbonne abandonna la capitale portugaise, menacée par les troupes napoléoniennes pour s'installer à Rio de Janeiro, le Brésil comptait autour de 3 millions d'habitants, dont environ la moitié d'esclaves, soit approximativement autant que le Portugal. Fait unique dans l'histoire des colonisations européennes, c'est l'héritier de la couronne portugaise qui devint, sous le nom de Pedro Ier, empereur du Brésil, le premier chef du nouvel État indépendant en 1822, après avoir renoncé à exercer ses prérogatives royales au Portugal, aux grandes dames de sa cour. Les décennies suivantes furent marquées par de nombreuses révoltes d'esclaves, dans un pays qui avait déjà connu de multiples communautés autonomes d'esclaves fugitifs, depuis la Queen Lobo de Palmarès, au XVIIe siècle, qui avait constitué une véritable république noire pendant plus d'un siècle, dans une zone montagneuse, avant de succomber face aux troupes envoyées pour mettre fin à cette expérience subversive. Une première loi, décrétant l'affranchissement des esclaves sexagénaires, fut adoptée en 1865, après de longs débats. En 1867, lors du discours du trône, l'empereur Pedro II fit longuement référence aux problèmes posés par l'esclavage, ce qui provoqua un tollé à la Chambre et au Sénat, qui étaient alors des enceintes étroitement propriétaristes, élues par moins de 1% de la population, et notamment par les propriétaires d'esclaves. Mais, face à la recrudescence des révoltes et aux menaces de dissolution, le Parlement accepta finalement d'adopter en 1871 la loi dite « du ventre libre », qui visait à affranchir les enfants à naître des mères esclaves, ce qui permettait d'envisager une abolition très graduelle. Les propriétaires des mères des bénéficiaires, appelés ingénues, devaient les élever jusqu'à l'âge de 6 ans pour recevoir de l'État une indemnité, payée en rente, juros, annuelle à 6%, ou bien conserver les jeunes noirs jusqu'à l'âge de 21 ans, en les faisant travailler contre rémunération, moyennant une indemnisation inférieure. Pendant ce temps, les débats sur l'abolition pure et simple se poursuivaient. À partir de 1880, la tension dans le pays devint de plus en plus palpable, à tel point que de nombreux voyageurs traversant les provinces de Rio et de São Paulo en 1883-1884 pouvaient croire à l'imminence d'une révolution sociale. L'armée annonça en 1887 qu'elle ne pourrait plus faire face aux révoltes et arrêter les esclaves fugitifs. C'est dans ce contexte que le Parlement adopta en mai 1888 la loi d'abolition générale, peu avant la chute du régime impérial en 1889, lâchée par les barons et l'aristocratie foncière dont ils n'avaient pas su défendre les intérêts. La chute du régime conduisit à l'adoption de la première constitution républicaine du pays en 1891. L'esclavage était terminé, mais le Brésil n'en avait pas fini avec les inégalités extrêmes qui en étaient issues. La Constitution de 1891 supprima les conditions de fortune, mais elle prit soin d'exclure les personnes non alphabétisées de l'exercice du droit de vote, règle reprise par les constitutions de 1934 et 1946. Ceci eut pour conséquence d'éliminer d'entrée de jeu environ 70% de la population adulte du processus électoral dans les années 1890 et toujours plus de 50% en 1950 et environ 20% en 1980. En pratique, ce sont non seulement les anciens esclaves, mais plus généralement les pauvres, qui ont ainsi été exclus du jeu politique pendant un siècle, des années 1890 aux années 1980. Par comparaison, un pays comme l'Inde n'a pas hésité à instituer un suffrage véritablement universel dès 1947, en dépit des immenses clivages sociaux et statutaires issus du passé et de la pauvreté du pays. On peut noter que les pays européens qui ont généralisé le suffrage aux hommes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle auraient éliminé une proportion substantielle des électeurs, en particulier dans les circonscriptions rurales et parmi les générations les plus âgées, s'ils avaient choisi d'imposer une condition d'alphabétisation. Il faut également souligner que l'application pratique de ce type de condition revient souvent à accorder un pouvoir démesuré à ceux qui contrôlent les administrations locales en charge de l'établissement des listes électorales. C'est d'ailleurs au nom de conditions de cette nature que les Noirs furent exclus du droit de vote dans le sud des États-Unis jusqu'aux années 1960. Au-delà de la question de l'esclavage et de l'accès au suffrage et à l'éducation, ce sont plus généralement les relations de travail qui sont restées extrêmement dures au Brésil tout au long du XXe siècle, en particulier entre les propriétaires terriens, les ouvriers agricoles et les paysans sans terre. Les témoignages abondent pour décrire l'extrême violence des relations sociales dans les régions sucrières du Nord-Est, avec des propriétaires utilisant la police et l'appareil d'État pour réprimer les grèves, comprimer les salaires et exploiter sans limite les journaliers agricoles, particulièrement après le coup d'État militaire de 1964. Il fallut attendre la fin de la dictature militaire, 1964-1985, et la constitution de 1988 pour que le droit de vote soit finalement étendu à tous, sans condition d'éducation. La première élection au suffrage véritablement universel se déroula en 1989. Nous reviendrons dans la quatrième partie sur l'évolution de la structure du conflit politique au cours de ces premières décennies de suffrage universel au Brésil. À ce stade, insistons surtout sur une conclusion que nous avons déjà rencontrée. il est impossible de comprendre la structure des inégalités modernes sans commencer par prendre en compte le lourd héritage inégalitaire issu de l'esclavage et du colonialisme. Russie, l'abolition du servage avec un État faible, 1861. Évoquons enfin le cas de l'abolition du servage en Russie, décidée en 1861 par le tsar Alexandre II. Outre que cette rupture majeure de l'histoire russe et européenne est exactement contemporaine de la guerre civile états-unienne, il est intéressant de constater qu'elle mit en jeu des débats qui n'étaient pas sans rapport avec les questions de compensation liées à l'abolition de l'esclavage, avec toutefois des spécificités entraînées par la faiblesse de l'État impérial russe. Précisons également que la forme de servage pratiquée en Russie au XVIIIe et XIXe siècle est généralement considérée comme extrêmement dure. En particulier, les serfs n'avaient pas le droit de quitter leur domaine ou d'accéder aux tribunaux. Jusqu'en 1848, la propriété des terres et des biens immobiliers leur était en principe interdite. Il faut toutefois signaler la très grande diversité des situations qui prévalaient au sein de l'immense espace russe. À la veille de l'abolition, on estime que la Russie européenne comptait plus de 22 millions de serfs, soit plus de 40% de la population russe à l'ouest de l'Oural, répartie sur un très vaste territoire. Beaucoup appartenaient à d'immenses domaines, comprenant parfois plusieurs milliers de serfs. Suivant les régions et les propriétaires, on pouvait trouver toute une graduation de droits et de conditions de vie. On observe même, dans certains cas, des serfs qui étaient parvenus à occuper des fonctions dans l'administration de ces propriétés et à accumuler des biens. L'émancipation des serfs de 1861, qui fut en partie déclenchée par la défaite russe lors de la guerre de Crimée, 1853-1856, mit en jeu de multiples processus qu'il est impossible d'analyser complètement ici. En particulier, l'abolition du servage fut suivie d'une réforme agraire qui aboutit à la mise en place de diverses formes de propriété communale, dont les effets sur la croissance agricole ont généralement été jugés beaucoup moins positifs que ceux de l'émancipation elle-même. Un aspect important de l'acte d'émancipation russe de 1861 est qu'il comprenait un dispositif complexe visant à indemniser les propriétaires de serfs pour leur perte de propriété, de façon comparable aux compensations versées aux propriétaires d'esclaves décidées lors des abolitions britanniques 1833, françaises 1848 et brésiliennes 1888. Le principe général était que les anciens serfs, pour pouvoir accéder aux terres communales, devaient acquitter des remboursements à l'État et aux anciens propriétaires pendant 49 ans. En principe, ces remboursements auraient donc dû s'étaler jusqu'en 1910. L'ensemble fit toutefois l'objet de multiples renégociations et la plupart des paiements prirent fin dans les années 1880. De façon générale, il faut insister sur le fait que le processus fut relativement chaotique et mal contrôlé par l'État central, compte tenu de la faiblesse administrative et juridictionnelle de ce dernier. En particulier, il n'existait pas de cadastre impérial, si bien qu'il était difficile d'allouer et de garantir de nouveaux droits d'accès aux terres. La collecte des impôts et la levée des conscrits, tout comme l'organisation des tribunaux de première instance, étaient dans une large mesure déléguées à la noblesse et aux différentes élites au niveau local, comme souvent dans les sociétés trifonctionnelles où la formation de l'État centralisé était peu avancée, si bien que la capacité du pouvoir impérial à imposer une transformation des relations de pouvoir au sein de la société rurale russe était relativement limitée. Des limitations à la mobilité des paysans continuèrent de s'appliquer, officiellement certes sous le contrôle de la commune, mais en pratique tout indique que les anciens propriétaires continuèrent de jouer un rôle prépondérant. Selon certains chercheurs, les actes d'émancipation de 1861 aboutirent même dans un grand nombre de cas à un renforcement de l'emprise des propriétaires sur les paysans, car rien ne fut véritablement fait pour développer un système juridictionnel indépendant et une fonction publique impériale professionnelle, ce qui aurait exigé d'améliorer considérablement le faible rendement du système fiscal. La fragile organisation fiscale et financière de l'État central russe explique également en partie pourquoi le pouvoir impérial a imposé aux anciens serfs des paiements de 49 ans aux propriétaires pour assurer leur rédemption, au lieu d'envisager une indemnité monétaire financée par la dette publique et donc par l'ensemble des contribuables, comme au Royaume-Uni et en France lors de l'abolition de l'esclavage. Une nouvelle vague de réformes agraires fut entreprise en Russie en 1906 avec des effets limités. L'État impérial finit par adopter en avril 1916, en pleine guerre, une réforme fiscale beaucoup plus ambitieuse que celle envisagée auparavant, avec la création d'un véritable système d'impôt progressif sur le revenu global, assez proche dans son fonctionnement de celui adopté en France en juillet 1914. De toute évidence, il était trop tard. La révolution bolchevique débuta en 1917, avant même que cette réforme peut être décisive ait pu commencer à s'appliquer et sans que personne puisse savoir si l'État impérial russe aurait réussi à la mener à bien. L'expérience ratée de l'abolition du servage en Russie nous rappelle une réalité essentielle. La transformation des sociétés trifonctionnelles et esclavagistes en sociétés de propriétaires nécessite la formation d'un État centralisé capable de garantir les droits de propriété des uns et des autres, le monopole sur la violence légitime et une relative autonomie du système juridictionnel, légal et fiscal, faute de quoi les élites locales gardent le contrôle des relations de pouvoir et de dépendance. Dans le cas de la Russie, la transition se fit directement vers un nouveau type de société, la société communiste de type soviétique.